France Musique. Musique et moi.
Jean-Philippe Puzan.
Priscille Lafitte. France Musique.
Un homme qui cultive son jardin comme le voulait Voltaire, celui qui est reconnaissant que sur la terre il y ait de la musique, celle qui découvre avec plaisir une étymologie, deux employés qui, dans un café du Sud, jouent un silencieux jeu d'échecs, le céramiste qui prémédite une couleur et une forme, le typographe qui compose bien cette page qui, peut-être, ne lui plaît pas, une femme et un homme qui lisent les tercets finaux d'un certain chant, celui qui caresse un animal endormi, celle qui justifie ou veut justifier un mal qu'on lui a fait. Celle qui reconnaissante que, sur Terre, il y a eu un Stevenson. Celui qui préfère que les autres aient raison. Ces personnes qui s'ignorent sont en train de sauver le monde.
Jean-Philippe Puzan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le premier Musique et moi de cette nouvelle saison sur France Musique. Je suis absolument ravie de vous accueillir ce matin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous avez tout un univers bien à vous, celui de la cosmologie. Vous scrutez les étoiles à la recherche du son ou de la lumière primordiale, le Big Bang. Est-ce que vous êtes reconnaissant à la musique d'exister ou à la clarinette de Giora Feidman d'exister, comme le dit ce poème Les Justes de Borges?
Oui, quoi. Je crois qu'on doit être reconnaissant à tout ce qui existe sur Terre, à toute la diversité. C'est pas juste la musique, c'est la diversité des cultures. Il dit aussi bien la diversité des gestes. Je suis reconnaissant qu'on puisse caresser un animal endormi. Et puis surtout, je suis reconnaissant qu'il y ait des gens qui préfèrent que les autres aient raison. Parce que c'est finalement ça aussi notre métier. On sait très bien quand on est dans la recherche de la connaissance qu'on a souvent tort, on est souvent remis en question et que ce qui est important, c'est le débat, c'est de progresser et c'est pas de convaincre les autres qu'on détient une vérité et qu'on a raison. Et que toutes ces petites choses, c'est ça qui fait culture. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on en a besoin plus que jamais.
Qu'est-ce qui a sauvé votre vie, Jean-Philippe Uzan?
Qu'est-ce qui a sauvé ma vie? En fait, beaucoup de choses, si j'y pense. Des rencontres, beaucoup de rencontres. L'école publique, ça c'est un truc qu'on mesure pas, mais en fait vous êtes exposé à plein de choses qui sont pas ce qu'il y a dans votre environnement familial. Vous allez découvrir des sujets, peut-être que des choses qu'on ne discute pas à la maison. Et puis cette école publique qui était gratuite, certains instituteurs qui vous disent qu'il faut faire des études, des rencontres avec certains professeurs, des rencontres avec des sujets. Et puis plus tard, des rencontres avec des chercheurs qui vous mettent sur des voies de recherche, qui vous donnent en fait de la matière à réflexion. Et puis après, la rencontre avec des amis aussi qui est en parallèle de ça. Donc je crois que, oui, c'est ça. Je pense que c'est toutes ces choses-là qui fait que ça nous sauve, parce qu'on tombe souvent quand même dans la vie.
Loch Nigun.
Thank you.
Yitzhak Perlman et Jeannette Goodman-Guggenheim dans le Nigun d'Ernest Bloch. C'est un enregistrement live de 1990 à Moscou. Nous sommes avec Jean-Philippe Puzan ce matin, qui est cosmologiste, qu'on peut entendre très prochainement au mois d'octobre au Théâtre 14 à Paris, ainsi qu'ensuite fin de l'année et début de 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie dans le Planétarium, pour une sorte de conférence musicale, parce que je crois que vous allez aussi jouer de la clarinette. Sur votre objet de recherche. Vous cherchez des clés de compréhension chez les philosophes grecs, chez les penseurs de la Renaissance, jusqu'aux dernières trouvailles d'astrophysique, à la poursuite d'une idée. L'univers est-il harmonieux ? C'est d'ailleurs l'objet d'un de vos livres, l'harmonie secrète de l'univers. L'univers émet-il des sons ? Y a-t-il un violon céleste ? Y a-t-il un Yitzhak Perlman qui jouerait le Nigun d'Ernest Bloch ? On verra au fil de cette émission que le problème de l'harmonie du son des planètes et des étoiles se pose depuis l'Antiquité, qui n'est pas simple, qui n'est pas évident à résoudre, car, vous l'écrivez, a priori, tout ce qui vibre produit du son. Les dunes chantent, les aurores boréales crépitent, le tonnerre nous fait sursauter, ces sons nous parviennent, car la Terre a une atmosphère. L'univers, lui, est vide. C'est le silence. Quel est votre premier souvenir, Jean-Philippe Puzan, face à l'immensité d'un ciel étoilé ?
Je le raconte un petit peu dans ce qui n'est pas une conférence, qui est une pièce de théâtre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est écrit et qui n'est pas du tout scientifique. J'ai convoqué des philosophes, des poètes, des écrivains, des scientifiques aussi, pour voir comment notre relation au ciel, notre vision du ciel a évolué avec le temps. Et comment, en fait, bien sûr, il y a eu des compréhensions scientifiques, mais c'est beau, une compréhension scientifique, mais c'est pas très intéressant tant qu'elle n'a pas diffusé comme savoir commun dans la population, parce que c'est ça qui change. À partir du moment où c'est un savoir commun, on change notre façon d'être au monde et de...
Notre perception.
Voilà, exactement. Donc ça, il y a une histoire de plus de 2000 ans d'amour entre les gens qui regardent le ciel et ce ciel, et c'est ça qu'on veut raconter. Donc, c'est pas conçu comme une conférence du tout, c'est vraiment une pièce de théâtre, et d'ailleurs je suis accompagné d'un de mes amis comédiens qui s'appelle Étienne Pommeret, et voilà, donc on est là sur scène et on essaie de vous faire ressentir un peu le vertige.
Et donc l'émotion enfant.
Oui, alors elle n'est pas vraiment enfant, parce que je pense que j'ai commencé à regarder vers le haut un peu plus tard que ça, mais je me rappelle d'un été en Corse. Où j'étais allongé, on était du côté de Saint-Florent, donc sur les hauteurs, et j'étais en colonie de vacances, et on était tous allongés sur le sol, on regardait le ciel, et quelqu'un a dit, mais en fait, on pourrait imaginer que on est retenu à la Terre simplement par la gravitation, puisque en fait, c'est vrai que si on se regarde de l'extérieur, la Terre est ronde et on est retenu comme un aimant sur un réfrigérateur, mais simplement ce qui nous retient, c'est la gravitation. Et en fait, on peut réaliser que cet espace, il est pas au-dessus, il est au-dessous, et qu'on est retenu au plafond et qu'on tombe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a la gravitation, alors que c'est une force qui est extrêmement faible. C'est un lien tout ténu, difficile à vaincre. Il faut voir à quel point c'est difficile d'envoyer une fusée dans l'espace, mais c'est ça qui nous retient ici sur Terre. Et à partir du moment où vous arrivez à faire cette démarche mentale et que vous êtes plongé sur une nuit mais qui est juste fabuleuse, et ben vous pouvez ressentir le vertige. Et là, tout de suite, toutes ces questions que vous pouvez avoir sur à quelle distance sont ces points, est-ce que ce truc là est infini, d'où ça vient, et finalement, qu'est-ce que je fais là, moi, en train de regarder ce spectacle ? Qui sont des questions qu'on se pose depuis toujours, et sur lesquelles on a quand même fait beaucoup de progrès depuis quelques siècles.
Et quel est votre premier souvenir musical, Jean-Philippe Puzan ? Première émotion, c'est le violon ?
C'est pas le violon, parce que... Quoi, c'est le violon, oui, on va dire que c'est le violon. Ça dépend aussi comment on regarde les choses. Mais peut-être que la fois où j'ai vraiment éprouvé pour la première fois quelque chose de fort dans un concert, c'était le concerto pour violon de Beethoven. Je sais pas pourquoi, en fait. Et après, je l'ai réécouté des dizaines et des dizaines de fois par plein d'interprètes. Il y a des passages où je sais que systématiquement, j'ai la chair de poule. Et éventuellement, si je suis en bonne condition, je peux même pleurer, quoi. Donc,
je sais pas pourquoi. C'est la résonance du violon?
Je sais pas, c'est ce que ça raconte. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ce violon qui est juste tellement follement amoureux et désespéré, et qui essaie d'exprimer un truc qu'il n'arrive pas. Et il y a l'orchestre qui arrive et avec plein de bienveillance et qui l'embrasse comme ça, comme quand vos amis vous prennent dans les bras comme ça parce que vous n'êtes pas capable d'exprimer, et qui le réconforte. Et il y a des passages où je trouve qu'il y a une telle solitude, une telle tendresse, que c'est comme si c'était un être humain qui était là en train de pleurer ou de vous raconter ses soucis ou ses rêves. et que, je sais pas, ça le fait pas avec d'autres concertos pour violon, c'est le seul qui fait ça. Donc, voilà.
Et avec le Nigun d'Ernest Bloch, qu'est-ce qui vous rattache à cette pièce?
Alors, ce qui me rattache, et on a entendu aussi ce morceau de, joué par Giora Feinman, le clarinettiste, c'est la musique Klezmer. Donc, j'ai appris la clarinette quand j'étais jeune, j'ai beaucoup écouté de musique Klezmer, et en particulier Giora Feinman, hein, j'ai tous ses disques. Et c'est le genre de musique que j'adore parce que c'est une musique un peu hybride, c'est-à-dire que c'est une musique qui s'est transformée avec les gens qui voyageaient, qui traversaient l'Europe de l'Est, qui sont allés aux États-Unis. Ça s'est hybridé avec la musique classique comme on l'a vu là, parce que c'est pas l'interprétation de Mahler qu'on a là, il en fait quelque chose qui est différent. Ça va s'hybrider avec le jazz, ça va s'hybrider avec le tango. Hein, Giora Feinman est d'origine argentine, ensuite il a vécu en Israël. Et c'est une musique qui est d'abord une musique qu'on jouait dans la rue. C'est en fait, c'est même le mot klezmer, c'est une hybridation parce que klezmer, en yiddish, ça veut dire l'instrument. Et la deuxième partie du mot, le mer, c'est les chants liturgiques. Donc quelque part, c'est comment des chants liturgiques vont sortir dans la rue, vont être joués par des gens qui font de la clarinette et du violon et que ça va devenir de la musique populaire et de la musique de rue. Et en fait, moi j'aime ça. En fait, j'aime que l'on parle pas de science, que dans les salles de cours et dans les salles de conférences, qu'on a le faire ça dans la rue, qu'on joue aussi la musique dans la rue et qu'on se rend compte autour de ça. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des cadres qui permettent d'écouter ou d'avoir accès à cette connaissance de façon tout à fait privilégiée, mais en fait, il faut que ça sorte, en fait, que tout cet art, tout ce savoir, en fait, diffuse complètement et soit partagé. Et peut-être que les interprètes sont moins bons, mais en fait, il y a cette joie de donner, il y a cette joie de recevoir. Et il n'y a pas cette barrière de la scène ou de cette barrière de l'estrade qu'on a, par exemple, quand on donne un cours, qui est quelque chose qu'on doit absolument déconstruire parce que on veut emmener ses spectateurs ou emmener ses étudiants avec soi. Le savoir ou l'art, c'est quelque chose qui doit transfuser d'une certaine façon. Il y a un très beau texte de Giordano Bruno où il explique ça. Il dit, voilà, si vous voulez enseigner, ce que vous devez faire, c'est tisser un fil de coton entre votre esprit et l'esprit de vos élèves et pour que le liquide de ce savoir en puisse transfuser de l'un à l'autre. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui doit devenir complètement charnel, sensoriel dans ce savoir pour qu'on puisse le partager. Et ça se fait en allant dans la rue en particulier.
Comme un onda, tiré de l'Emma d'Ennio Morricone, Rocco Parisi est à la clarinette basse.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Jean-Philippe Puzan est avec nous ce matin. Vous avez joué de la clarinette enfant, c'était un choix? C'était une vibration qui vous plaisait?
C'est le résultat d'un long processus. J'ai commencé par apprendre le piano parce qu'il y avait un piano chez nous. Mais j'étais vraiment lamentable. Je pense que j'ai un problème de coordination, faire deux choses différentes avec deux mains, c'est pas possible pour moi. Et surtout, j'avais mon meilleur ami d'enfance, on faisait tout ensemble, donc il apprenait le piano et il était juste génialissime, il est devenu pianiste professionnel. Donc c'est-à-dire que il écoutait une émission de télé, il jouait le générique tout de suite et moi j'étais là, je galérais comme... Bon bref, autant dire que vous abandonnez tout de suite. Et après j'ai fait un an de hautbois, j'adorais le hautbois. Et le truc, c'est que voilà, on vous prête les instruments et tout ça. Et je me rappelle, c'était un peu cher d'acheter d'un hautbois parce que c'est beaucoup. Et après, je suis passé à la clarinette. Et c'est comme ça que le processus s'est fait. Puis après, j'ai découvert le répertoire de la clarinette. Et c'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à écouter ces disques de musique Klezmer. Et là, ça m'a tout de suite parlé en fait. C'était ça le genre de musique que je voulais faire. Alors bien sûr, quand on va au conservatoire, on apprend surtout de la musique classique du répertoire. Mais il y avait cette musique-là. Et puis il y avait le jazz aussi, Benny Goodman ou ce genre de choses. Et puis là, comme dans ce morceau de Morricone, quoi, cette façon de jouer de ces instruments qui est un petit peu décalé avec du slapping en déformant les sons. Et je trouvais que ça offrait un espace de liberté qui était assez agréable. Et puis c'est comme ces instruments qui sont petits dans leur boîte, on peut voyager avec et ça c'est bien aussi.
Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous comme musique quand vous étiez enfant?
Mes parents écoutaient beaucoup de musique classique. Donc ils aiment beaucoup la musique classique. Mais on n'allait pas beaucoup au concert. Voilà, donc il y avait des disques. Et ce qui fait que c'est bien de mettre Ennio Morricone, parce que la musique, je l'ai surtout découverte, en fait, avec le cinéma et avec les films. Donc Ennio Morricone, pour moi, c'est, voilà, il était une fois en Amérique, il était une fois dans l'Ouest. Il y a des morceaux qui sont assez extraordinaires. Et puis même quand on pense cinématographiquement par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, on a des plans séquences qui durent, voilà, on prend le temps. Et, je sais pas, cette fameuse scène, finale de Il était une fois dans l'Ouest avec une guitare électrique et un harmonica, c'est un véritable opéra. Et vous faites parler les instruments à la place des êtres humains et simplement la caméra a des gros plans sur les regards, sur une goutte de transpiration. Et pour moi, en fait, quand j'ai découvert ce genre de cinéma, je me dis c'est juste fabuleux de pouvoir s'exprimer comme ça. Et puis il y a eu tous les films classiques de Milan Odyssée de l'espace, où on a entendu Strauss et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je trouvais que la musique, pour moi, il y a quelque chose de très visuel et que quand c'est vraiment en accord avec ce qu'on voit sur l'écran, c'est juste fabuleux.
Ça valse, ça danse des étoiles.
Ça tourne, quoi. Quand elles sont à deux, elles peuvent danser, oui, elles peuvent danser de façon même assez endiablée quand elles sont à deux. Ça peut être assez cataclysmique à la fin.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé. Il s'en va faire sa nuit avec le temps. Tout s'évanouit avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille. Dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va, toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre, à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre, à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qu'il en eût vendu son âme. Pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Je garde cet accord à la fin. Alors, faites-moi plaisir. Comme ça, vous serez tout à fait avec moi. Je m'en vais. Je vous souhaite bonne nuit. Et n'applaudissez pas à cette chanson. Hein ? Merci d'avance.
Jean-Philippe Huzan, vous étiez là à l'un de ces derniers concerts de Léo Ferré.
Ah oui, c'est un des moments les plus, émouvants en termes de concerts que j'ai pu vivre. Je crois que c'était en 91. C'était au théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi, donc un tout petit théâtre. Il était seul sur scène. Et c'est vrai que les gens applaudissaient après chaque chanson. Il a continué pendant 2 heures, 3 heures, exactement combien de temps. Et il a fini, comme sur cet enregistrement, en demandant aux gens de ne pas applaudir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les lumières sont tombées, il est sorti de scène. Les gens n'ont pas applaudi et sont sortis en silence. Et on avait l'impression que, ouais, c'était un moment extraordinaire. Et c'est vrai que moi, ça fait partie aussi des chanteurs qui sont importants pour moi, pour plein de raisons. Et j'ai rarement vu ça, en fait, en termes d'intensité d'émotion. Parce que c'était une petite salle aussi, donc on était un petit peu comme si vous étiez dans votre salon et que vous avez quelqu'un qui va se mettre et puis au piano, qui va commencer à chanter des chansons. Puis voilà, vous êtes dans une soirée et puis tout le monde va s'arrêter, tout le monde va écouter. Et il y a une sorte de communion silencieuse qui se fait et on ne sait pas pourquoi. Et ouais, il y a une sorte de vague d'émotion qui vous traverse et ça m'a marqué. Mais franchement, j'ai jamais retrouvé en fait cette émotion-là dans aucun autre concert. Et pourtant, j'ai vu des concerts fabuleux, mais il y a jamais eu cette chose-là.
Est-ce que ce silence à la fin du concert de Léo Ferré est proche du vertige que vous pouvez ressentir devant le silence de l'univers? Devant ce temps qui s'écoule très différemment quand vous scrutez les étoiles?
Je sais pas. Le vertige, il est plus lié à cette notion de mystère qu'on peut avoir. C'est-à-dire que plus on comprend l'univers, plus on comprend qu'il y a des questions qui deviennent oppressantes. On peut les évacuer comme ça quand on réfléchit pas trop, mais plus on y travaille, plus on se dit, non, il y a quand même, il reste un mystère au cœur de tout ça. La science n'a pas la réponse à tout. Et plus on corsette l'univers dans des équations et dans des observations, plus on met en avant ce mystère. Ça, c'est la source du vertige. Mais le silence, je pense que c'est ce qui vient avant. C'est ce qu'il faut faire quand on commence à regarder la nature. C'est-à-dire que, on regarde autour de soi, et quand je dis regarder la nature, ça peut être regarder les gens, vous êtes dans un café, vous regardez les gens passer, ou vous regardez voilà un oiseau voler, une rivière, les vagues, ou les étoiles, c'est que vous vous taisez, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Il faut juste se dire, c'est pas possible que ce truc-là existe, qu'il y ait tout ça autour de nous, et que, voilà, il faut avoir une sorte d'humilité par rapport à cette nature. On est juste un élément de la nature, on fait partie d'elle, on a plein de liens qui nous relient de plein de façons à cette nature, et on va se dire qu'à un moment, on est un petit peu présomptueux, je pense, nous, les scientifiques, quand on dit à un moment, nous, on va comprendre, on va vous comprendre telle et telle chose, et on va rentrer dans cette démarche-là où souvent, comme je le disais tout à l'heure, on va se tromper, Et il faut garder silence, c'est-à-dire que ce silence, c'est le moment où vous prenez vraiment la dimension du chemin sur lequel vous allez partir. Et c'est pas pour la gloire, c'est pour rien. C'est juste parce qu'il y a un moment, c'est inévitable pour vous. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous devez aller. Vous êtes attiré vers ces étoiles. Vous êtes attiré vers la compréhension, je sais pas, de ces animaux, des gens. Chacun va trouver la chose qui va être vraiment importante. Et vous devez aller sur ce chemin. Mais les premiers pas, ça se fait en silence. Et mon métier est assez silencieux. Je passe beaucoup de temps dans mon bureau avec des livres à lire ou avec des papiers à faire des calculs, souvent faux. Donc, vous êtes seul. Et après, bien sûr, vous travaillez avec des collègues, avec des étudiants. Et là, vous parlez, vous verbalisez. Mais avant de verbaliser, vous vous taisez et vous digérez plein de choses pour leur donner sens. Et le silence, c'est important. Et je pense qu'en musique, s'il n'y avait pas de silence, ça serait juste un capharnaüm le plus total.
Vous avez pris le temps dans votre parcours ou vous avez foncé?
Ah non, je me suis perdu plein de fois. C'est-à-dire que je crois que j'aimais à peu près toutes les matières qu'on puisse imaginer. Parce qu'à chaque fois, c'est intéressant. L'histoire, c'est intéressant. La biologie, c'est intéressant. Et puis, j'ai eu de la chance d'être plus ou moins aiguillé. J'ai fait une classe prépa. Je suis rentré dans une grande école. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire autre chose en parallèle. Je suis allé étudier aux langues orientales, les civilisations et les langues du Grand Nord, en particulier des Inuits. Parce que il y avait un truc que j'arrivais pas à comprendre. C'est que j'étais là, moi, petit français, d'une civilisation occidentale, et puis j'apprenais plein de trucs. Mais je me demande à quel point, si j'avais été, j'avais l'impression d'être comme, de pas faire partie de ce monde-là, c'est-à-dire de regarder à la fois l'univers, les gens, de me dire, mais je fais pas partie de ce monde-là. Et est-ce que je comprendrais la même chose si j'étais un autre? Voilà. Je pense que les anthropologues, c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est-à-dire dire si j'étais un Chinois ou si j'étais un Inuit, comment est-ce que je conceptualiserais le monde? Et on sait aujourd'hui que, la relation qu'on va avoir au monde peut être pensée différemment. Et moi, j'avais l'impression de complètement être amputé parce que j'avais qu'une seule façon de penser. Alors, je me suis un peu perdu par là. Et puis après, je suis retombé sur mes pieds.
Et vous partez faire votre service militaire en Suède, oui. Je crois, comme coopérant dans un laboratoire de recherche, oui, pour étudier les aurores boréales.
Oui,
est-ce que c'est vrai, comme vous l'avez écrit, que les aurores boréales crépitent?
Ah oui, alors je les ai jamais entendues. Alors elles crépitent parce que quand on les enregistre, il y a des petits signaux électriques. Et surtout quand j'écris ça, c'est un mythe qu'on raconte chez les Inuits, en fait. C'est que les aurores boréales crépitent et que si vous passez en dessous d'une aurore boréale, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir les morts qui jouent à la balle avec des têtes de mort. C'est que donc, il faut quand même faire attention. Donc, écoutez les aurores boréales avant de vous approcher. Thank you.
La danse d'Aze tirée de Peer Gynt par l'Orchestre Philharmonique de Bergen dirigé par Ole Christian Rode. Est-ce que vous pouvez lister le nombre de pays par lesquels vous êtes passé? Vous avez observé combien de ciels étoilés dans le monde?
Alors, passé beaucoup, mais vivre plutôt. Donc, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Afrique du Sud. Et puis j'ai passé énormément de temps au Japon, parce que ça fait 15 ans où j'y vais presque chaque année un mois pour travailler. Donc ça, c'est les pays qui ont vraiment été très importants. Après, quand vous faites de la recherche, vous êtes amené pour des conférences ou pour des collaborations à voyager. J'ai eu la chance d'aller observer le ciel depuis le désert de l'Atacama. C'était en 1997 pour observer le transit d'un astéroïde. D'aller plusieurs fois en Amérique du Sud, donc là aussi quelque chose qui était très très loin de mon univers personnel, d'aller bien sûr en Amérique du Nord, au Canada, et voilà, à chaque fois c'est des belles rencontres. Et ce qui m'intéresse, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire du tourisme, en fait j'aime pas trop visiter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les marchés, c'est comment faire ses courses, comment trouver un pharmacien, ce genre de choses, c'est-à-dire les choses concrètes. Et quand vous allez pour travailler, en fait vous rencontrez des collègues, vous rencontrez des étudiants, et tout de suite vous êtes imbriqué dans une vie qui est bien sûr une vie académique, donc qui est pas le vrai monde non plus, mais quelque part vous avez accès à pas mal de choses. Et puis les collègues vous incitent toujours à venir voir un certain nombre de spectacles ou de faire des sorties, et vous êtes exposé à des choses que vous auriez jamais découvertes sinon.
Qu'est-ce qu'on entend là, Jean-Philippe Usan?
La savane, je crois. Oh oui.
C'est le Procanto Youth Choir, une chorale sud-africaine. Mm-hmm. Je crois que vous avez entendu en Afrique du Sud.
Oui, alors là, normalement, on devrait être dans la cathédrale Saint-Georges du Cap. C'est pas vraiment... Et donc, c'est un chœur qui va commencer, voilà, avec des bruits, qui sont les bruits de la savane. C'est un chant qui s'appelle l'Aduma. Et en Zoulou, ça veut dire le tonnerre. Et vous voyez, on est avant la pluie. On commence à voir, en tapotant avec son doigt sur la main, ces gouttes qui deviennent de plus en plus lourdes. Il va vraiment pleuvoir. Vous êtes dans une église, hein, je vous dis, c'est assez troublant. Probablement le tonnerre va bientôt arriver. Donc ça, c'est fait avec leurs pieds en tapant sur l'estrade. Ils font des ondes avec leurs pieds sur l'estrade.
Impressionnant.
Oui. Et ça va se calmer, après on va être après l'orage.
La Jumma, La Jumma, La Jumma, La Jumma, La Jumma. La Douma par le Pro Canto Youth Choir, une chorale qui est installée au Cap en Afrique du Sud.
France Musique, Priscille Lafitte, Musique et moi.
Jean-Philippe Puzan est notre invité ce matin. Jean-Philippe, vous travaillez sur la cosmologie, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Quand est-ce que le lien entre la musique et votre métier de physicien devient une évidence?
Ah, c'est pas un hasard. J'ai été invité par une fondation qui s'appelle la Fondation 93 pour un projet dans une école à Bobigny, si mon souvenir est bon. Et donc voilà, il mettait en couple un artiste et un scientifique pour développer un projet avec une classe de CM2. Et donc j'ai dit, bah, pas de problème, mais moi je travaille avec un compositeur. Et je leur ai expliqué pourquoi. C'est quand je fais ce genre de choses, j'aime bien apprendre des choses. Et j'étais assez intrigué par la musique contemporaine, parce que autant ce que j'avais appris au conservatoire, lire les notes, ça allait. Puis le reste, j'avais vu des partitions, je comprenais rien. Il y avait des dessins, il y avait des trucs. Pour moi, j'avais un petit peu vu ça au bac en tombant sur certains morceaux, mais c'était encore voilà. J'avais besoin de comprendre ça. Et donc c'est là où j'ai rencontré Eddy Ladoire, qui est un compositeur de musique concrète. Je crois que c'était un élève de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry. Et donc on a commencé à faire ce projet, et on a commencé à travailler sur les différences entre le son et la lumière, voilà, aussi bien en art qu'en science. Et puis après, fallait faire un projet. Et puis là, il y a un moment, j'ai eu cette idée que plus tard je vais appeler l'astronome aveugle. C'est comme ça que j'ai raconté l'histoire aux enfants. Je leur ai dit, ben, en fait, imaginez qu'on soit tous aveugles. Toute l'humanité est aveugle. Voilà. Comment est-ce qu'on arriverait à se représenter le monde dans lequel nous vivons? Puisque toute l'information qu'on a de l'univers, eh bien, ce sont la lumière des étoiles, des galaxies. On a deux, trois petites pierres de temps en temps qui nous tombent sur Terre, c'est des météorites. Mais globalement, c'est la lumière, on va dire, la quasi-totalité de l'information que l'on a. Comment est-ce qu'on ferait? Et donc, c'est cette question qui m'est venue comme ça, je me suis dit, mais elle est géniale, parce qu'elle est à la fois très concrète, on est tous aveugles, on ferme les yeux, mais en fait, c'est une grande question philosophique, c'est-à-dire, quelle est la relation entre le monde extérieur et ce que moi, j'arrive à concevoir et à percevoir. Et donc, on a commencé par fermer les yeux, essayer de faire le plan de la classe, les yeux fermés, donc on se déplace, on se cogne, on compte les pas, et on se rend compte que il faut interagir avec le monde, et donc il faut être capable d'enregistrer quelque chose. Et ensuite, eh bien, ce que j'essaie d'expliquer aux enfants, c'est que les astronomes l'avaient fait d'une certaine façon. Il existe des lumières que nous ne sommes pas capables de voir avec nos yeux, ce qu'on appelle les infrarouges, les ultraviolets, que vous connaissez bien puisque vous mettez tous votre crème solaire pour pas avoir de coups de soleil. Donc, elles existent bien, ces rayonnements. Et on arrive à photographier l'univers dans ces couleurs-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on transforme ces couleurs dans des couleurs qui sont visibles avec nos yeux. Et donc, on fait des photos des astres dans différentes fréquences. Et ça nous permet d'apprendre plein de choses sur l'univers. Eh bien, je me suis dit, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on a le droit de transformer les observations qui sont de la lumière, qu'on observerait avec des télescopes, eh bien, on peut les transformer avec un ordinateur en son, et on peut apprendre à écouter ces sons. Et à partir de là, on commence à écouter l'univers en son. Alors, bien sûr, ces sons, c'est une reconstruction complètement intellectuelle, et on va éduquer à reconnaître un certain nombre de phénomènes de la nature. Et on est rentré dans ce jeu-là, et ça a beaucoup plu à la Fondation 93, qui nous a dit à un moment, allez, composez-nous ce voyage de l'astronome aveugle dans la galaxie. Et là, c'est là où on commence à transpirer, parce que autant c'est drôle en tant que plaisanterie pour un projet avec des enfants pendant quelques semaines dans une école, autant quand on vous dit composer quelque chose, et puis surtout donc l'idée c'était de la musique concrète, donc partir avec des banques de sons qui sont organisées, et c'est du son qui est spatialisé, qui s'écoute dans une cabine.
On écoute un petit peu, vous allez nous expliquer.
Voilà, donc tout ça, c'est de la musique électronique. Donc le processus a été que j'ai sélectionné un certain nombre de phénomènes astrophysiques que j'ai transformés en sons grâce à mon ordinateur. Donc j'ai fait des banques de sons, par exemple des pulsars, des étoiles, plein de choses. J'ai transformé aussi des observations. On peut prendre des équations et les transformer en sons. Et à partir de ce catalogue de sons, on a commencé à raconter une histoire. Et ce qu'a fait Eddy Ladoire, c'est qu'il a pris ces sons, et puis lui, c'est le musicien, donc avec des synthétiseurs, il les a transformés, il les a mélangés, et on finit avec une pièce qui est une pièce donc électroacoustique, mais qui est spatialisée. Elle s'écoute dans une cabine en métal. Il y a six haut-parleurs et un caisson de basse, ce qui fait que vous allez entendre le son aussi tourner autour de vous. Et puis quand c'est des basses fréquences, vous allez aussi ressentir physiquement les vibrations dans votre corps. Et donc vous pouvez avoir par exemple des étoiles qui tournent. Vous allez entendre le son tourner. Et si ça forme un trou noir, ça peut se faire dans le plancher. Donc c'est vrai que là,
c'est une carte sonore en fait.
Vous êtes plongé dans le son. Vous êtes plongé dans le son. Et bien sûr, une fois qu'on a la pièce qui est composée, on reconnaît plus du tout d'où viennent les sons. Et c'est pas grave, c'est pas le but, c'est pas de faire de la pédagogie, c'est pas de faire de la vulgarisation. Mais c'était de partir de cette collection de sons pour raconter un voyage tel qu'il serait vécu par cet astronome aveugle. Et pour la petite histoire, parce que c'est quelque chose qui a été aussi important dans les rencontres de ma vie, c'est quelques années plus tard, je donnais une conférence sur ce sujet, toujours au Cap où j'ai passé beaucoup de temps, et on m'a présenté une astronome, Wanda Diaz, qui est costaricaine, qui a fait sa thèse, et vers l'âge de 27 ans, elle a eu une maladie, elle est devenue aveugle, et qui faisait exactement ce travail-là, c'est-à-dire que pour continuer à analyser les données, elle avait créé des logiciels qui transformaient les observations en son, et ce qui lui permettait de percevoir ces images et d'étudier des phénomènes astrophysiques.
Donc c'était votre hypothèse d'être un astronome aveugle, et elle vivait cela comme une expérience.
Oui, c'est-à-dire qu'elle elle a développé tous les outils parce qu'elle voulait continuer à travailler, et là-bas elle a travaillé avec une école pour aveugles en se disant, ben, on vit tous dans un monde de données, on est avec nos ordinateurs, que ce soit les cours de la bourse, le climat, l'astrophysique, quoi, tout est donné. Si vous n'avez pas accès aux données parce que vous ne pouvez pas les voir, en fait vous êtes exclu de nombreux métiers. Et donc elle a développé des logiciels pour faire que des enfants sourds puissent apprendre à éduquer leur écoute pour pouvoir reconnaître ces signaux et pour pouvoir les analyser et pouvoir faire des calculs avec.
Elle est capable, elle, d'entendre et d'analyser à partir de ce qu'elle entend.
Ah, mais c'est extraordinaire. Le jour où on s'est rencontrés, je savais pas qu'elle était aveugle. On m'a dit, on va te présenter quelqu'un. Et on a fait un exercice. Il y avait une courbe et on devait calculer quelque chose à partir de cette courbe. Elle l'avait enregistrée. Donc, elle entendait les sons en fonction du temps. Elle a calculé. Alors, pour ceux qui sont techniciens ou mathématiciens, elle calculait une intégrale de cette courbe. Voilà. Moi, je le calculais à la main à partir de la forme de la courbe, et on a trouvé la même chose. Et donc, elle m'a convaincu que parce qu'elle entendait les niveaux sonores, elle pouvait se visualiser la courbe, elle était capable de faire des calculs comme ça. Et donc ça, vous pouvez rechercher, il y a des vidéos d'elle sur Internet où elle explique sa méthode de travail. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, faire de la science, c'est pouvoir interagir avec le monde extérieur. Et quelque part, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle pour certains signaux. On ne voyait pas les infrarouges avant de savoir qu'ils existent. Et on a ensuite fait des télescopes qui nous permettent de les voir. Et finalement, les scientifiques, ils s'efforcent toujours à transformer l'invisible en visible pour pouvoir l'expliquer. Donc, d'augmenter le mystère du monde, d'une certaine façon.
Et c'est justement l'objet de votre livre, L'harmonie secrète de l'univers.
Et c'est un livre où je raconte un petit peu déjà cette expérience-là. Je pars de cette histoire-là. Et pour montrer que, bien sûr, au départ, c'est un lien entre musique et astronomie qui peut sembler ludique, qui n'apporte rien à la science. Et en fait, en remontant, parce qu'on fait ses recherches après, en remontant dans le passé, on se rend compte que ce que nous considérons comme étant des disciplines très, très lointaines l'une de l'autre, hein, l'approche scientifique et l'approche artistique du monde, c'est des choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Bien qu'en fait, si on revient il y a quelques siècles, dans le passé, c'était peut-être pas le cas.
Oui, parce qu'on apprend que Pythagore réfléchissait autant sur la musique que sur les mathématiques et la géométrie, en fait.
Oui, à l'époque, on disait qu'il n'y avait pas de scientifiques, il y avait des penseurs. Et ces penseurs-là, ils étaient à la fois philosophes, ils regardaient le monde et ils écrivaient. Et bien sûr, parfois, ils partaient dans des délires. Et ils avaient tout à fait raison, parce qu'ils n'avaient pas la méthode scientifique. C'est cette fameuse méthode qu'on pense qui est si importante aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est créé, en particulier à partir de l'âge des Lumières. Il a fallu vraiment arriver à comprendre ce que c'était que la méthode expérimentale, formuler des hypothèses. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Chacun, je crois que c'est Pierre Duhem qui dit que chaque Grec qui connaissait deux théorèmes de mathématiques en faisait un univers. Donc c'est un petit peu ça.
Et alors, en quoi est-ce que Pythagore s'intéressait à la musique? Expliquez-nous.
Alors Pythagore, déjà, c'est un savant qui est assez extraordinaire. C'est une sorte de mythe. Il y a énormément de légendes qui tournent autour de lui. On ne sait pas exactement ce qui est historique et ce qui ne l'est pas. Il a laissé le fameux théorème de Pythagore qui a fait souffrir beaucoup d'entre nous à l'école. Mais surtout, on lui doit, dit-on, là encore légende, le fait que l'utilisation du mot cosmos pour parler de l'espace. Donc cosmos, souvent on pense à cosmos qui est opposé au chaos, donc l'ordre par rapport au désordre. Mais bien sûr, dans le mot cosmonaute, eh bien, c'est le mot cosmos qui va vous donner qui veut dire espace. Et en fait, on dit que c'est lui qui a choisi ce mot parce qu'il y a un autre sens au mot cosmos en grec qui va donner cosmétique, qui est la beauté. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il a choisi ce nom pour nommer la voûte céleste, cette sphère sur laquelle seraient déposées les étoiles. À l'époque, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et donc était la bordure du monde avec toutes ses étoiles. Il l'a appelé comme les bijoux des femmes grecques, donc ce fameux cosmos, parce que l'émotion qu'il avait en regardant le ciel était comparable à celle qu'il pouvait avoir en regardant une femme qui avait fait cet acte de cosmétique et qui était parée de ses bijoux. Et donc, quelque part, ce lien intime entre l'émotion et la contemplation de l'univers. Et ensuite, tout ça va se développer et on va commencer à se poser la question de ce qu'on va appeler l'harmonie des sphères, c'est-à-dire d'associer à chacune des planètes qui étaient supposées tourner autour de nous un son. Et le problème, c'est que personne n'entendait ce son. Il n'y avait que Pythagore qui l'entendait. Et donc, il y avait quelqu'un d'un peu plus matérialiste que lui, qui s'appelait Aristote, qui a dit, bah, ça vaut rien. S'il n'y a que lui qui l'entend, que je ne peux pas en faire l'expérience, ce n'est pas une question de science, c'est une question de croyance. Et puis, cette chose-là va se développer, on va le retrouver dans les écrits de l'Antiquité. Ça va, grâce à Boès, ça va transfuser jusqu'au Moyen-Âge chrétien. Et en fait, dans l'enseignement des mathématiques, on va mêler à la fois l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Parce que la musique, on va comprendre que c'est les rapports musicaux. Si vous prenez une corde, que vous la faites vibrer, ça fait une certaine note. Si vous la coupez au milieu, ça fait la même note à l'octave. Si vous le coupez aux deux tiers, ça va faire une quinte. Si vous les coupez aux trois quarts, ça va faire une quarte. Donc il y avait un rapport entre des nombres 1, 2, 3, 4, leur rapport, et puis des accords qui étaient harmonieux. Et qu'est-ce que ça veut dire harmonieux? Ça veut dire que si vous jouez une quinte, do, sol, eh bien, ces deux sons qui vont se renforcer, il n'y a pas de dissonance. Et ça, on l'a compris bien plus tard en étudiant ce qu'étaient les sons, c'est qu'il y avait des fréquences et que dans le spectre de fréquences de chacune de ces deux sons, eh bien, se complétaient. Il y avait les fréquences d'un des sons qui étaient déjà contenues, mais de façon minoritaire dans l'autre son. Donc, il y avait ce renforcement. Et donc va naître cette idée d'harmonie du monde, c'est que l'univers est harmonisé, c'est ça qui l'empêche de retomber dans le chaos, il est harmonisé et c'est ça qui conserve le cosmos. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très profond, c'est-à-dire que quelque part, Pythagore pensait qu'avec cette harmonie de l'univers, il avait découvert le principe qui était au cœur du mystère de l'univers, et que c'était ça qui faisait fonctionner l'univers et qui lui permettait de perdurer en fait.
Thank you.
Jean-Philippe Usan, quoi est-ce que ce De Profundis Clamavi de Josquin des Prés est révolutionnaire?
C'est-à-dire que déjà on commence à avoir de la polyphonie, et puis tout à l'heure je vous ai expliqué, quoi, je vous ai pas expliqué, je vous ai dit qu'il y avait une relation entre les modes qu'on utilisait et les planètes. Imaginez qu'au milieu d'un morceau de musique, vous changiez de tonalité, vous fassiez une modulation. Ça veut dire que vous allez changer de mode. Symboliquement, vous changez de planète. Vous déplacez le centre du monde. Et ça, c'était scandaleux. Et avec Josquin des Prés, ben, on commence à faire de la modulation dans les morceaux. Et en fait, il va y avoir une relation très intime entre les mathématiques et la musique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais il fallait créer une gamme pour avoir les notes pour jouer. Et si on faisait la gamme comme le faisait Pythagore, en fait, il y avait des dissonances qui apparaissaient. Et donc, il va y avoir tout un courant de mathématiques pour définir une bonne gamme. Et en fait, le bon va dépendre de quel type de musique vous voulez faire. Si vous voulez faire de la polyphonie, si vous voulez faire des modulations, il va falloir cacher à droite et à gauche ces petites dissonances jusqu'au moment où on va arriver à la gamme bien tempérée qui permet de faire ça sans problème. Et là, il y a eu un échange avec des musiciens qui vont s'intéresser aux mathématiques, des mathématiciens qui vont s'intéresser à la musique, des échanges, et ce côté symbolique, c'est-à-dire où se trouve le centre du monde. Et à cette époque, on pensait que le centre du monde était la Terre, sauf que ça posait des problèmes à certains. Alors un très beau texte, c'est Nicolas Oresme, je ne sais pas si on connaît ce... Je crois qu'il était évêque de Lisieux, il a dû naître vers 1320, quelque chose comme ça, et dans son livre qui s'appelle Théorie du ciel, il fait un songe, et il se dit, il y a un truc qui n'est pas normal, la Terre devrait être au centre de l'harmonie géographique de l'univers, mais c'est le Soleil qui est au centre de l'harmonie musicale, et ça lui pose un problème. On voit bien où il veut en venir, mais il ne conclut pas, il se réveille avant de conclure, et puis voilà, 150 ans plus tard, Copernic, on déplace le centre du monde. Donc on voit que symboliquement, faire ces modulations, si on prend vraiment les choses au sérieux, eh bien c'est quelque chose de scandaleux.
Alors au fur et à mesure de l'histoire, Jean-Philippe Usan, si j'ai bien compris, si je vous suis bien, on est venu à l'évidence que l'univers est silencieux. Mmh. Hein, c'est notre expérience sensorielle en tout cas. Jusqu'à quand?
Donc le premier point, c'est que l'espace est principalement vide. Et que dans le vide, le son ne peut pas se propager. Il faut qu'il y ait voilà, de l'air. Le son se propage dans l'air, dans l'eau, dans les solides. Hein, les Indiens qui écoutent les trains sur les voies de chemin de fer, c'est du son qui se propage. Et donc, dans l'univers, il n'y a pas de son. Donc, on ne peut pas écouter quoi que ce soit des étoiles. Il n'y a pas de musique. Donc, ça, c'est fini. Donc, si maintenant, on peut jouer l'exercice de se dire, comme notre astronome aveugle, je vais transformer en son certains signaux. De quels signaux est-ce qu'on peut parler? Donc, ça, c'est tous les signaux de lumière. Et c'est vrai que la lumière, on a tendance à croire que c'est la lumière qui est visible par nos yeux. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des couleurs que nous ne voyons pas. Et puis, il y a des ondes qui sont aussi de même type que la lumière, qu'on appelle les ondes électromagnétiques, mais qui vont être ce qu'on appelle scientifiquement des ondes radio, donc des ondes de plus grande longueur d'onde. Et là, on a des radiotélescopes qui sont pas des télescopes avec des miroirs, mais qui sont des grandes antennes et qui scrutent l'univers et qui nous apprennent aussi beaucoup de choses sur l'univers. Donc, quand vous écoutez la radio à la maison, alors, à l'heure d'Internet, ce que je vais dire est un peu caduque, mais c'est pas grave. Ceux de ma génération comprendront mieux.
Avec un vrai poste de radio.
Voilà. Quand je vous parle, eh bien, le son se propage de ma bouche jusqu'au micro, c'est transformé en signal électrique, qui ensuite se propage sous des formes d'ondes électromagnétiques jusqu'à votre radio, qui transforme de nouveau cette onde électromagnétique en son que vous écoutez avec vos oreilles. Donc, si vous dites que vous écoutez la radio, eh bien, si je fais la même chose avec ces ondes radio des étoiles que je les transforme en son, eh bien, on pourrait dire que c'est tout à fait équivalent à écouter l'univers. Donc voilà, c'est un peu la licence que l'on peut prendre. Et si on prend cette licence, eh bien voilà, on écoute l'univers comme on écoute la radio. Mais entre le moment où ces vibrations ont été émises et le moment où on les écoute, elles ne se sont pas propagées sous forme de son, mais sous forme d'ondes électromagnétiques.
Alors, qu'est-ce qu'entend Jocelyn Bell Burnell en 1967 à Cambridge?
Voilà. Donc en 67, donc Jocelyn Bell Burnell est une étudiante en thèse. Elle participe au développement des premiers radiotélescopes et elle découvre un signal qui est très régulier, quelque chose qui fait à peu près comme ça, si je le transformais en son, un rythme très régulier. Et on comprend pas ce que ça peut être parce que c'est un objet qui est nécessairement loin, mais rapide. Donc il doit avoir beaucoup d'énergie, donc il doit être gros. Pour avoir beaucoup d'énergie, mais comme il tourne vite, il doit être assez petit aussi. On comprenait pas comment un objet pouvait être gros et petit. Et il a fallu plusieurs années. Au début, c'était tellement régulier comme une montre d'horloger. On s'est dit, bah, voyez, s'il y a une montre d'horloger, c'est qu'il y a un horloger. On a appelé ces signaux-là LGM1, puis plus tard, un deuxième LGM2 pour Little Green Man. Donc, c'est des petits hommes verts. Donc, c'est des signaux extraterrestres. Et il a fallu un certain temps pour comprendre que c'était ce qu'on appelle des pulsars, donc des étoiles à neutrons, donc des étoiles qui ont par exemple la masse du Soleil, mais une taille de 10 km et qui tournent très rapidement sur elles-mêmes. Et si elles ont un champ magnétique, eh bien elles vont émettre des ondes radio. Et quand ces ondes éclairent la Terre, un peu comme un phare qui brille, eh bien vous avez un petit pulse d'ondes radio. Et donc quand vous le mettez en son, vous entendez comme ça. Et chaque pulsar va tourner à une vitesse différente, va avoir une fréquence différente. Et donc, ça vous fait des rythmes dans l'univers.
Et donc, Gérard Griset a repris ces rythmes de pulsar.
Voilà, il avait entendu parler de ça.
Dans une composition, Le Noir de l'Étoile.
Tout à fait.
On entend les percussions de Strasbourg dans cette œuvre Le Noir de l'Étoile de Gérard Griset. Vous me parliez de comment Gérard Griset avait pris connaissance de ces découvertes scientifiques.
Voilà, il avait entendu parler de ces pulsars et il a contacté Jean-Pierre Lubinet qui travaillait à l'Observatoire de Meudon, qui lui a expliqué ce que c'était. Et en fait, ils ont travaillé ensemble. Et la création de cette pièce avec les percussionnistes de Strasbourg s'est fait... Donc là, c'est le pulsar de Vela qui est dans l'hémisphère sud. Donc c'était retransmis à l'Observatoire et donc il y a eu la création avec le pulsar en direct. Donc le pulsar, lui, il fait tac-tac-tac-tac comme ça depuis 12 000 ans à peu près. Donc voilà, c'est un ostinato rythmique qui va rentrer en dialogue avec des percussionnistes qui vont se mettre eux-mêmes à imaginer des rythmes. Et comme chaque pulsar va avoir un rythme, eh bien on sait pas si les rythmes qu'on invente correspondent pas à un pulsar qui existe quelque part dans l'univers. Et donc on va mélanger ces sons-là. Et donc on a un son de la nature qui prend le statut d'instrument de musique, d'instrumentiste, et qui fait part de cette œuvre.
Et en novembre 2015, qu'est-ce que découvre alors l'Institut d'astrophysique de Paris ?
Ah, c'est pas nous, non, c'est pas nous qui découvrons ça. On aurait bien voulu, ce sont les Américains, malheureusement. Non, en 2015, il y a eu la détection des ondes gravitationnelles. On en a beaucoup parlé. Donc, c'est ce qu'on appelle les détecteurs LIGO américains, qui sont des ondes associées à la gravitation, qui étaient prédites par la théorie d'Einstein. Il a fallu presque 100 ans entre le moment où on a commencé à comprendre que ça existait et leur détection. Et ces ondes ne correspondent à aucun de nos sens. Vous voyez, le son, on a les oreilles, la lumière, on a nos yeux, on a les autres sens pour détecter des molécules chimiques, pour les odeurs, pour le goût, pour les textures avec le toucher. On n'a aucun sens pour les ondes gravitationnelles. Et donc, au moment où il a fallu communiquer sur cette découverte, eh bien, ils ont été transformés en son, on les a écoutés à la radio, et donc on nous a parlé partout des échos de l'univers. Mais en fait, ce qui a été fait, c'est exactement l'exercice que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est transformer une observation faite avec un détecteur très complexe qui mesure ces ondes gravitationnelles, de le transformer en son pour le rendre sensible à tout un chacun.
Alors, cette pulsation de l'univers inspire les compositeurs. Est-ce qu'on peut dire même qu'elle inspire les musiques répétitives d'un Steve Reich ou d'un Philip Glass ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
J'en sais rien. Moi, je l'ai imaginé. Comme je les ai jamais rencontrés, j'ai pas pu leur poser la question. Ils se sont jamais exprimés sur la question, donc on n'en sait rien. Mais moi, je trouve que quelque part, il y a de ça, c'est-à-dire ces phénomènes qui sont, une planète qui tourne autour de son étoile. Eh bien, c'est le même mouvement pendant des siècles et des siècles et des siècles. Donc, il y a vraiment quelque chose de répétitif. Et si vous imaginez, on fait l'exercice de Pythagore, on met une note à chaque planète, on fait tourner ça. Chacune a une fréquence différente parce que les planètes qui sont plus loin mettent plus de temps à tourner. Eh bien, vous allez bien avoir un motif qui va se déformé, qui va être complètement dissonant, mais qui va faire une sorte de musique répétitive. Il faudrait essayer. Il y a des gens qui ont fait ça. Je crois Willie Rogers avait fait ça en musique électroacoustique dans les années 2000. Donc oui, on peut voir tous ces mouvements répétitifs. On peut les concevoir comme de la musique répétitive. On est libre.
Thank you.
Jean-Philippe Puzan, vous me disiez que c'est une musique que vous êtes susceptible d'écouter quand vous travaillez. Elle vous inspire.
C'est-à-dire que...
Ou elle vous apaise.
Ni l'un ni l'autre, elle me met dans une sorte de non-temps. En fait, ça me permet de... Surtout quand je calcule, j'ai besoin d'oublier que le temps passe. Et donc, je mets ces musiques-là parce que ça évolue. Donc, on n'est pas quelque chose de statique. Mais il se passe pas plein de choses qui fait que je suis pas perturbé dans ma concentration. Et donc, j'écoute énormément Philippe Glass quand je travaille.
Oui, c'est une question de concentration.
Oui, c'est ça. Oui, c'est de se mettre dans un environnement qui est propice un peu à l'errance. C'est comme quand vous êtes dans le désert, en fait, parce que il y a toujours des dunes, elles sont toutes différentes, mais le paysage est un peu toujours le même. Donc, quelque part, vous partez dans cette errance mentale en regardant ces formes qui sont presque toutes les mêmes, qui se déplacent, et vous vous perdez. Et en fait, c'est très important d'arriver à se perdre pour pouvoir bien se concentrer et travailler. En tout cas, pour moi.
C'est une rêverie, presque.
Oui, c'est une rêverie. Je sais pas si c'est une rêverie, non. C'est pour oublier, les tracasseries du quotidien, on va dire. Parce que quand on veut se concentrer, il faut pas penser qu'on doit aller chercher les enfants ou qu'il y a ci à faire. Voilà, toute la vie du quotidien, il faut arriver à la sortir. Et pour moi, une façon efficace de le faire, c'est je mets cette musique-là et assez rapidement, pendant 2-3 heures, je peux ne penser à rien d'autre que ça. Et ça me permet de travailler, voilà, efficacement.
Alors, Jean-Philippe Puzan, de votre travail, vous vous êtes associé à un compositeur qui est devenu un ami, je crois, Fabien Waxman. On va écouter une des musiques que vous avez composées ensemble, en quelque sorte.
Non, c'est lui le compositeur.
Improvisées ensemble.
Non, c'est lui le
vous
compositeur.
Vous l'avez fortement inspiré.
Non, le projet est né ensemble. Je lui ai raconté des histoires. Une musique, c'est une histoire. Quand je disais que j'aimais beaucoup les musiques de films, pour moi, ça doit raconter une histoire. On se racontait des histoires. Ensuite, j'ai dessiné une histoire et ça donnait, on va dire, le canevas pour cette composition qu'on va écouter. Et puis ensuite, il a créé des motifs, il m'a joué des motifs. On en a parlé, je lui ai suggéré des choses. Mais à la fin, écrire de la musique, c'est un métier et ça s'improvise pas. Donc, on peut faire des petits trucs dans sa clarinette comme ça, c'est une chose, on s'amuse. Mais quand on veut vraiment composer quelque chose, là c'est un quintet avec piano, il faut savoir écrire. Donc on peut collaborer et cette collaboration elle vient par trouver un terrain où chacun amène plein d'éléments à l'autre et qu'il y a cet échange puis à la fin chacun fait son métier parce que moi je peux pas composer de la musique.
Alors, est-ce qu'on peut écouter oui ce baiser de la mort de Fabien Waxman et vous pouvez nous expliquer le récit que, oui, que vous avez inspiré à ce compositeur?
Donc là, en fait, on commence, c'est un peu une sorte de contemplation plan large de l'univers. Donc vous avez plein de galaxies, plein d'étoiles, tout ça est très calme. Et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Au moment où on a commencé à travailler, c'était un petit peu après cette détection des ondes gravitationnelles. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est les trous noirs. Et puis on sait que des étoiles peuvent tourner l'une autour de l'autre et fusionner pour faire une supernova et laisser soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et on voulait raconter ça. Donc en fait, il va y avoir un zoom, un moment à l'intérieur d'une galaxie, on va découvrir un système binaire, donc un système de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, elles sont pas identiques, elles ont des couleurs différentes. Donc ce que Fabien va faire, c'est qu'il va associer un thème à chacune des étoiles. Ces thèmes, eh bien voilà, ça va être des thèmes qui vont être circulaires, il va y avoir des symétries, ils vont évoluer, puisque ces étoiles, en tournant l'une autour de l'autre, émettent des ondes gravitationnelles, elles vont se mettre à tourner de plus en plus vite. On a une sorte de, je vais pas dire tango, parce que c'est pas du tango, mais voilà, de danse assez, qui va devenir de plus en plus rythmée, de plus en plus sensuelle, jusqu'au moment où il va y avoir cette fusion entre les deux étoiles, avec un phénomène très énergétique, ces ondes gravitationnelles qui vont partir dans l'univers. Et à la fin, on reste avec cet objet compact, seul, qui va être lui très très calme, très silencieux. Et toute cette énergie qui part dans l'univers, qui finit par une sorte de petit rythme, toujours sur la note ré à la fin du morceau. Donc voilà, on est parti sur cette histoire que j'ai d'abord dessinée comme une sorte de, c'est juste sur une page, comme une sorte de dessin qui explique tout le phénomène en fonction du temps. Une fois que vous racontez une histoire dans le temps, et ben voilà, les musiciens, c'est quand même les artistes du temps. Ils sculptent le temps. Donc, il a commencé à faire des thèmes pour chacune des étoiles. À certains moments, il s'est inspiré de choses que j'aimais bien. Il y a des mélodies qui peuvent faire rappeler du klezmer, comme on a parlé tout à l'heure, des choses un peu plus jazz par moment. Et voilà, et après il a joué avec ses symétries, avec tout l'art de l'écriture pour arriver à faire sentir ces mouvements de rotation, cette accélération, ces fusions. Il y a aussi des mouvements de respiration où on a comme les deux étoiles qui se contemplent avant de reprendre leur ballet endiablé.
Un extrait du Baiser de la mort, quintette avec piano de Fabien Waxman, qui vous est dédié, Jean-Philippe Uzan. On en entendait un extrait. Vous pouvez entendre l'intégralité de cette œuvre sur le site de Fabien Waxman. Je crois que vous avez d'autres projets ensemble, notamment sur Stephen Hawking. Vous pouvez m'en dire plus.
Au moment, après la mort de Stephen Hawking, on était beaucoup à vouloir lui rendre un hommage. Moi, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quand j'étais étudiant. On a eu l'idée d'écrire un ensemble de mélodies. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti des travaux les plus importants de Stephen Hawking. Donc, c'est des articles qui sont écrits en anglais. Et à partir de ça, sur chacun de ces résultats, j'ai écrit un poème. Alors, qui ensuite est mis en musique pour faire une mélodie, donc en anglais. Et ça peut être aussi bien une histoire d'amour. Donc voilà, il y a plein de propriétés des trous noirs qui sont complètement contre-intuitives. Et on peut avoir une histoire d'amour où quelqu'un est tombé dans le trou noir, il peut pas répondre, mais il reçoit. Donc un peu comme une sorte d'échange épistolaire au moment où à une seule direction. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en scène différents univers et différentes façons de parler de ces résultats sans qu'on comprenne. C'est-à-dire que bien sûr, si on vous explique ce qui se passe, par exemple, il y a un trou noir qui est son psychiatre et il est un peu hypochondriaque parce qu'il a appris que les trous noirs rayonnaient, donc il perdait de la masse et que donc un jour il va disparaître et il panique. Et donc voilà, ça c'est un des plus grands résultats de Stephen Hawking, c'est le rayonnement des trous noirs qu'on n'a toujours pas détecté. Et donc à partir de ça, le trou noir devient un être vivant qui s'exprime, qui apprend ça, qui est complètement perturbé parce qu'on lui avait dit qu'il serait éternel et maintenant il apprend qu'il va s'évaporer complètement. Et puis voilà, donc vous imaginez que ça peut être un film de Woody Allen, quoi, l'hypochondriaque chez son psy, quoi. Et on s'est beaucoup amusé, et donc à chaque fois on a essayé de trouver un univers musical, une façon de parler de ses résultats. Et puis voilà, donc après il va falloir arriver à faire la création. Ça sera pour piano et soprane, donc voilà, on va chercher des interprètes et puis une occasion aussi pour faire la création.
En un mot, Jean-Philippe Uzan, une toute dernière question. La NASA a envoyé de la musique dans l'espace. Vous auriez envoyé laquelle?
Quelle musique j'aurais envoyé? Je crois que c'est un exercice impossible. En fait, c'est un exercice impossible. Ça revient à ce que je vous disais au début. Ce qui est passionnant sur Terre, c'est la diversité. En fait, si vous n'aviez qu'une seule couleur, vous vous ennuyeriez. Si vous aviez qu'une seule musique, vous vous ennuyeriez. Donc, ils ont fait une sélection très bien pensé, avec de la musique classique.
Du Bach et du Beethoven.
Bon, il n'y a pas de musique très contemporaine. Ils ont eu des problèmes de droit. Les Beatles devaient être inclus et c'est leur maison d'édition qui n'a pas voulu que ça soit inclus. Des musiques de Java, de Bali. Donc, en fait, pour montrer un peu la diversité mais c'est quand même, je crois, une vingtaine de morceaux. Si vous devez en envoyer un, en fait, vous ne pouvez pas. Moi, les gens qui me disent qu'ils peuvent aller sur une LDZ avec un livre ou avec un morceau de musique, je ne les crois pas. Et je pense que c'est ça la chose qui m'intéresse, c'est la diversité et puis ce mélange et ce partage de la musique. Parce que c'est avant tout, voilà, la musique c'est quand même avant tout, c'est fait pour chanter, pour danser, pour être heureux ensemble. Et puis après, on peut arriver à des moments vraiment de jouissance absolue quand on a des grands interprètes. Mais je pense qu'au départ, c'est quand même ça. C'est un truc humain là qu'on fait dans sa cuisine, dans son salon, dans la rue, et on partage.
Et on a entendu l'éclectisme et la diversité de vos goûts musicaux ce matin. Merci beaucoup d'avoir été le premier invité de ce Musique et moi de cette saison. Je rappelle qu'on peut vous entendre au Théâtre 14 tout prochainement au mois d'octobre, puis à la Cité des Sciences. On va mettre tous ces détails et toutes les dates sur le site de France Musique. Vous pouvez aussi lire et plonger dans le bouquin passionnant que vous avez écrit aux éditions La Ville Brûle. Ça s'appelle L'harmonie secrète de l'univers. Merci beaucoup Jean-Philippe Puzan. Grand merci à Lionel Quentin pour la réalisation, Eric Boisset à la technique aujourd'hui et à l'attaché de production Marie Ferdinand pour la documentation et la mise en ligne. La semaine prochaine, c'est un voyage dans notre cerveau que nous allons effectuer. Nous serons en compagnie du neurologue Paolo Bartolomeo. Merci, à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.